de Jean Richepin, un lait. Du diable, si je pouvais m'attendre à être un jour légataire, pour si peu que ce fût, du vieux docteur amable cher Pillot. Sans doute, il avait été jadis le camarade de quartier latin, puis le collègue de mon père. Pas son ami, d'ailleurs. De cela, j'étais certain, leur relation si ancienne n'ayant eu à aucune époque rien d'intime. Quant à moi, personnellement, je l'avais à peine fréquenté, même au temps lointain où j'allais chaque année passer mes vacances chez mes parents à Vimeur-les-Eppes. Je l'avais connu alors surtout de réputation et plutôt comme une sorte de pauvre imbécile à qui je ne témoignais pas grande sympathie. Enfin, au cours de ces 20 dernières années, ne retournant plus là-bas depuis la mort de mes parents, je l'avais tout à fait perdu de vue. Il n'y avait donc pas de raison plausible pour que le bonhomme eût pensé à me coucher sur son testament, et encore moins pour qu'il y eût pensé sous une forme aussi singulière et romanesque. Mais il fallait bien cependant me rendre à l'évidence. La lettre du notaire était là, devant mes yeux ébahis. Elle me faisait savoir que le docteur amable cher Pillot me léguait un pli scellé, lequel devait m'être remis en main propre, sous la condition expresse que j'aurais, après avoir lu ce pli, à le brûler en présence du susdit notaire. Quelque peu d'attrait que pût me promettre la confidence posthume d'un être insignifiant à ce point, ma curiosité en fut excitée quand même, tant le romanesque est alléchant, et je pris le train. Chemin faisant, je me fis mille reproches de m'être laissé hameçonner à une telle amorce, au fur et à mesure que me revenaient en mémoire tous les détails appris autrefois touchant le caractère et la vie du docteur. Il reconstituait une physionomie vraiment trop dénuée d'intérêt. Mais qu'allais-je apprendre de plus relativement à ce pauvre imbécile? À coup sûr, cela ne valait pas le voyage. Je me rappelais tout d'abord et en vive lumière la figure même d'amable cher Pillot, le jour où je l'avais vu pour la première fois, le jour de ses noces, voilà une quarantaine d'années. Oh, la triste, la ridicule, ingrate figure, plus lamentable que jamais en pareille circonstance, plus lamentablement triste, ridicule et ingrate. Amable cher Pillot avait alors la cinquantaine, mais une cinquantaine confite dans l'ennui provincial, dans la conscience d'une laideur terne et bête, dans le train-train d'une existence sans pensée, ni action, ni rêve. Mauvais petit médicastre qui avait jusque-là vivoté d'une clientèle hasardeuse, il venait de faire un héritage qui lui permettait de vivre dorénavant en renonçant à une profession qu'il n'aimait pas. Et on lisait à plein sur sa mine aigre, à la fois renfrognée et orgueilleuse, l'amère bile de tous ses déboires, passé la basse joie d'être envoyé, envié maintenant. Mais on y lisait cela seulement, et rien d'autre. Sous ses deux poussées de vert et de rouge qu'on sentait momentané, blêmissait le teint de chaque jour, qui reprendrait demain son gris neutre, uniforme, morne emblème d'une imbécilité irrémédiable et essentielle. Et pourtant, une vraie joie, une joie de passion aurait dû y fleurir aujourd'hui sur ce visage de niais et le transfigurer, puisque le docteur, grâce à son argent, épousait la plus belle fille du pays. Mais il ne semblait pas même en être épris de cette radieuse Madeleine Grimblay, épanouie dans la gloire de ses 17 ans en fleurs, si blanche et si rose sous ses épais cheveux frisés, pareils à des grappes de raisin noir. Si belle plante, comme on disait là-bas, avec sa grâce de jeune vierge encore, et déjà ses hanches roulantes, et sa gorge rebondie de femme, mûre pour l'amour. Non, il semblait l'épouser uniquement, pour faire pièce à tous ceux qui la désiraient. Et ce sentiment visible le rendait plus laid encore, auprès d'une telle splendeur, lui, le maigre et ratadiné vieux garçon, le rouquin à demi déplumé, le godiche aux favoris en queue de lièvre, au nez chanfoin, aux yeux étroits et bridés, aux coups de dindon, aux oreilles décollées et sans ourlet, à la lippe supérieure interminablement stupide, au menton court et fuyant, aux pâles lèvres minces, lui faisant une bouche en fente de tirelire. Et telle, je l'avais revue toujours par la suite, en laidissant avec l'âge, tandis que sa femme embellissait de plus en plus et devenait la belle Madame Cherpillot, non plus seulement la plus belle fille du pays, mais, disait-on de façon courante, la reine du département. Et, de façon courante aussi, ce qu'on disait alors, c'est que la belle Madame Cherpillot, toute dévote qu'elle était, et très dévote, en faisait voir de drôle au pauvre imbécile. Oh, sans le moindre scandale, bien entendu, comme il s'y est en province. Portant la culotte et menant le bonnet et tambour battant, elle se passait à domicile les fantaisies d'un tempérament de feu, racontait la chronique secrète. Cherpillot n'y pouvant suffire, la besogne incombait, paraît-il, au jardinier. Ainsi, du moins, le narrait, et un grand renfort de gorge chaude, les brantômes de Vimers les épes. Ils ajoutaient même que les jardiniers succombaient l'un après l'autre à la tâche, si bien choisis qu'ils fussent et si bien soignés. Et de fait, j'avais fort nette souvenance d'avoir toujours vu, à chacun de mes voyages là-bas, quelques nouveaux gars au service du docteur, un tous les 2 ou 3 ans à peu près, quelques drus et robustes gars compagnards, duquel j'entendais dire par la suite qu'il avait bientôt dépéri et s'était en allé de la poitrine. Et de même, il me remontait à l'esprit avoir ouï des ivrognes faisant les soirs de fête la conduite au docteur avec une chanson du pays goguenarde et sans gêne, dont je ne citerai qu'un couplet, car les autres, et particulièrement le dernier, bravent trop l'honnêteté. « Savez-vous ce que je mange quand je mange à la maison? Je mange du failli pain d'avoine. Pauvres gens, c'est pas bonbon. J'avons ben du bon pain blanc, qui est blanc et mollet, mais il est pour notre femme et son valet. Tra-la-la-la-la, ma peu femme est pour les autres. Tra-la-la-la-la, ma femme n'est pas pour moi. » Et je me rappelais encore qu'amable Cherpillot ne bronchait pas sous l'insulte, et qu'il gardait imperturbablement son teint d'un gris neutre, uniforme, morne, emblème d'une imbécilité irrémédiable et essentielle. En vérité, il donnait l'impression, ou d'être consentant, comme on le répétait à sa honte, ou de ne savoir absolument rien du tout, comme pouvait le faire croire son air de parfaite bêtise. D'autres détails ressuscitaient dans ma mémoire, mais qui n'ajoutaient pas grand-chose à la physionomie du bonhomme. Cela, je les tenais de mon père. À son estime, Cherpillot était une très piètre intelligence scientifique qui n'avait passé qu'avec peine son doctorat, qui, depuis, n'avait jamais travaillé, qui en était resté aux vieilles méthodes d'il y a 50 ans, à la saignée, au sangsu, et qui, somme toute, avait surtout péché, comme médecin et comme homme, par une stupidité absolue jointe à la plus infime faiblesse. C'est avec ces souvenirs et ces notions sur le docteur que j'arrivais à Vimers-les-Epes, regrettant tout à fait le voyage où m'avait entraîné une curiosité vaine, et bien convaincu que le lait du pauvre imbécile ne pourrait jamais être, malgré sa forme romanesque, une chose intéressante. Le notaire me remit cérémonieusement le pli scellé devant un grand feu de bois qui flambait comme s'il avait eu conscience d'avoir à remplir tout à l'heure un devoir tabellionnaire. Ce feu et l'officier ministériel avaient une majesté qui m'obligea moi-même à briser majestueusement les 5 larges cachets de cire rouge. Je trouvais que nous étions le feu, le notaire et moi, d'un grotesque achevé. Pour m'en dégourdir un peu, je risquais une timide plaisanterie sur la belle Madame Cherpillot et les jardiniers, sachant que le notaire autrefois était un des brantômes les plus salés de Vimeur-les-Epes. Le notaire m'interrompit en me croissant, grave comme un corbeau. « Madame Cherpillot est morte il y a 6 mois d'un cancer. » Ah, je ravalai ma salive et me mis à lire tout bas le papier que voici. « Pour vous, esprit parisien qui devez mépriser les provinciaux en général et en particulier le pauvre imbécile que je parais être, ces quelques notes sont rédigées. J'ai profondément aimé Madeleine, et je ne pouvais me passer d'elle, enfin de son corps, j'entends. Je suis fidèle aux doctrines de Cabanis, absolument matérialiste et athée. Je ne crois pas aux remords. Néanmoins, je me suis mis au courant, sans que personne l'ait su, des doctrines de Pasteur. Je crois aux microbes. Depuis 10 ans, ma femme, convaincue de ma toute-puissance, m'a été complètement et délicieusement soumise. Je veux qu'elle meure avant moi. Et cela, donc, sera mes volontés, à cet égard, ayant toujours été exécutées. J'ignore si on guérira jamais la tuberculose et le cancer, mais je sais parfaitement qu'on peut les donner. Faites-vous conter l'histoire de ma vie, si vous ne la connaissez pas, et concluez, jeune homme, en vous disant avec Balzac qu'il n'y a de grands originaux et de grands criminels qu'en province. Je jetai le papier au feu, mis mon chapeau, et courus vite reprendre le train pour rentrer à Paris, où les originaux et les criminels ont en effet moins qu'en province le loisir de devenir grands, occupés qu'ils y sont, comme tout le monde, à se débattre sans fin ni cesse parmi les remous tourbillonnants des mufles.